Vous écoutez Bac FM, bonne matinée à vous. On est parti pour votre rendez-vous ciné tous les mercredis matins sur Bac FM en partenariat avec le Ciné Mazarin. Une émission un petit peu spéciale. Aujourd'hui, on en parle dans quelques instants. C'est parti.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y, Jean-Pierre.
Moteur. Et action. Moteur.
Et oui, mission un petit peu différente des autres car je suis tout seul. Laetitia est souffrante aujourd'hui. Elle aura l'occasion, bien sûr, de revenir. Ne vous inquiétez pas, très vite, pour continuer cette émission avec un déroulé comme on a l'habitude de le faire. On va quand même parler cinéma aujourd'hui. D'ailleurs, on écoutera un film du grenier que Laetitia évoquait il n'y a pas très longtemps. Son habituel film du grenier de fin d'émission. Elle ressort de son grenier un film pour nous rappeler pourquoi il faut voir ce film culte qu'elle a choisi. On va revenir sur la programmation du cinéma Mazarin pour cette semaine. Mais juste avant, c'est les infos.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Et on commence ces infos ciné avec une question. Qui serait la candidate parfaite pour présider la 50e cérémonie des Césars ? Eh bien la réponse c'est Catherine Deneuve, la comédienne de 80 ans qui sera la présidente de la 50e édition de la cérémonie des Césars. Elle aura lieu le 28 février sur la scène de l'Olympia à Paris. Avec Le Dernier Métro de François Truffaut, elle décrochait son premier César de la meilleure actrice en 81, avant d'en obtenir un autre 12 ans plus tard avec son rôle dans Indochine de Régis Wagner, lauréat de l'Oscar du meilleur film international.
Le César est attribué à Catherine Deneuve dans Indochine.
Je vous remercie beaucoup, je suis très émue, c'est très très bien d'être là, mais c'est vraiment une épreuve terrible. Je vais essayer de vous dire à quel point je voudrais remercier Régis Barnier, mon metteur en scène, et Eric Mann pour avoir rêvé Indochine et l'avoir réalisé.
Catherine Deneuve qui sera donc la présidente des Césars pour la 50e édition, ce sera le 28 février prochain, et lui sera peut-être un jour César du meilleur acteur, on lui souhaite, tout comme Nicolas Vanier, meilleur réalisateur. Eh bien je parle de Gaspard Lacorne, c'est un jeune comédien nivernais et il fait l'actu cinéma mais aussi de la radio sur Bac. L'actu cinéma c'est tout simplement lui car il est au casting du film C'est le monde à l'envers qui sort le 16 octobre, film réalisé par Nicolas Vanier. Ils étaient tous les deux présents au cinéma Mazarin il y a quelques jours pour présenter le film en avant. Première, le film qui a été tourné dans le Morvan et le jeune acteur est un local étant donné qu'il vit à Magny-Cours. Et pourquoi ils font l'actu de la radio ? Bien parce qu'ils étaient tous les deux mes invités pour parler du film. Je vous invite à retrouver le podcast sur bacfm.fr. Et puis pour terminer ces infos, un mot sur le film OVNI du moment. Film événement aussi, c'est le retour d'Emmanuel la semaine dernière. Et puis je voulais en parler parce que la liste des films érotiques français qui ont eu droit à une exposition internationale sur grand écran bien, est plutôt mince. Et le plus célèbre d'entre eux, et bien, c'est sans aucun doute Emmanuel le premier, sorti en 1974. Son remake 50 ans plus tard par Audrey Diwan et avec Noémie Merlan. Dans le rôle principal est en salle depuis mercredi dernier, il vient secouer le mythe et apporter une dimension très moderne et féministe, tout en gardant quand même une sensualité et l'érotisme du récit. Audrey Diwan à la réalisation aime choquer et l'assume encore une fois à travers son Emmanuel. Elle était l'invitée de France 5 récemment et elle invite le spectateur à se laisser faire par le film et l'écriture.
Le principe du film, c'est d'écrire les sensations, c'est de partir. Alors ça, j'avoue que c'était audacieux et c'est vrai que j'ai une demande à faire au public. Il s'agit de rentrer dans le film en se laissant faire par lui. Donc c'est l'histoire d'une femme qui n'a plus de plaisir. Et j'avais envie, à travers lui, de raconter comment on peut revenir à soi, comment on peut faire remonter les sensations. Donc voilà, c'est une écriture des sens.
Et puis à côté d'elle, Noémie Merlan qui campe Emmanuel, qui explique ce qui lui a plu dans ce scénario et puis dans ce rôle. Et ça commence dès le début du film, figurez-vous.
Et quand j'ai lu le scénario, moi, c'est ça qui m'a frappée. C'est d'ailleurs une prise de risque, mais une belle et nécessaire prise de risque, de commencer avec une Emmanuel qui fait ce qu'elle est supposée faire, presque ce qu'on attend d'elle, mais en fait, elle prend pas son pied du tout, quoi.
Démarrage timide au box-office pour Emmanuel avec 45 000 entrées, le film n'est pas énormément distribué et il parle forcément à un certain public, hein, c'est pas forcément le film familial évidemment. Petit bonus pour les personnes qui ne connaissent pas le phénomène en fait qu'est Emmanuel, et bien du premier film à maintenant et les changements qu'il a apportés dans la société, bien je vous invite à aller voir le documentaire Emmanuel par Emmanuel, c'est dispo sur francetv.fr.
Du regard des hommes sur la femme objet.
À l'époque, rien ne choquait.
C'est quand même l'histoire d'une femme qui jouit grâce à un virilisme autour d'elle.
Au regard féminin sur la femme sujet.
Est-ce que moi, réalisatrice, je peux proposer une autre vision? Comment parler du plaisir de la femme?
Aller chercher l'érotisme, se réapproprier cette connexion au charnel.
Le désir des femmes est encore un continent à explorer.
D'Emmanuel à Emmanuel. Mardi à 21h05 sur France 5. Et sur la
Manuel, lui, est bien là, il voulait évoquer l'acteur et star de la country Kris Kristofferson, décédé à l'âge de 88 ans.
En effet, Théo, l'acteur et aussi star de la country, Kris Kristofferson, nous a quittés samedi. Il est mort paisiblement chez lui, hein, selon sa famille. Lauréat d'un Golden Globe en 1976 pour son rôle aux côtés de Barbara Streisand dans Une étoile est née. Kris Kristofferson s'était également distingué dans Pat Garrett et Billy the Kid, un film réalisé par Sam Peckinpah en 1973. Il faut préciser aussi que Kris Kristofferson a été un auteur-compositeur-interprète de country de tout premier plan, un peu dans la veine de Johnny Cash ou bien encore de Willie Nelson. Il avait véritablement était en lien avec Nashville, la capitale mondiale du country. C'est d'ailleurs Bob Dylan qui a pour rendre hommage à Kris Kristofferson déclaré que il y avait Nashville avant Kris et il y avait Nashville après Kris. Donc le chanteur à la voix rauque a toute sa vie vraiment nourri une passion pour le poète anglais William Blake et il s'était régulièrement produit sur scène jusqu'à sa retraite artistique à l'âge de 84 ans. C'était en 2021. Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord. Everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Selena's, Lord, I let her slip away.
Et c'est donc la perte d'un monstre sacré du grand écran, mais du monde artistique en général, que voulait évoquer Manuel dans ses infos, que l'on retrouve pour parler d'un film à l'affiche cette semaine. Justement, tout de suite, on passe aux sorties de la semaine dispo dans votre ciné Mazarin.
C'est pour le cinéma ou la télé?
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran.
Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Et on commence ces sorties de la semaine au ciné Mazarin avec un flashback en 2019 avec Joker de Todd Phillips, Joaquin Phoenix et la musique de Hildur Gundonatir ont été oscarisées 5 ans plus tard. Et en plus d'un milliard de dollars au box-office international, le clown tragique est de retour pour une folie à deux où il rencontre Harley Quinn incarnée par Lady Gaga.
Alors Fleck, t'as une blague pour nous aujourd'hui?
Nous utilisons la musique pour nous reconstruire. Pour compenser les fêlures qui sont en nous.
Je suis personne. Contrairement à toi, j'ai rien fait de ma vie. Allez, on s'arrache.
What the world is not.
Dites-nous, qu'est-ce qui a changé, Arthur ?
Je vais vous dire ce qui a changé. C'est que je suis plus seul. C'est vraiment de ça qu'il faudrait qu'on parle.
Je veux voir le vrai toi.
Folie à deux commence là où s'arrête Joker. Il est interné dans l'asile d'Arkham où les mauvais traitements et les moqueries se pratiquent au quotidien sur lui et l'envie de rire est totalement absente jusqu'au jour où il croise une autre patiente, fan de son œuvre et tout aussi piquée que lui, et on comprend tout de suite qu'entre ces deux-là, eh bien la romance ne va pas être facile. Film avec un côté très musical où même la danse est présente et c'est à retrouver au cinéma Zarin pour une projection de Folie à deux peut-être. Bon, on fait quoi maintenant ? Eh bien, on parle justement de la comédie française de la semaine. On fait quoi maintenant ? Nouveau film de Lucien Jean-Baptiste, connu pour son film La Première Étoile. C'est son 7e film en tant que réalisateur avec cette comédie tournée en Vendée, précisément au Sable d'Olonne où l'acteur en fait a élu domicile depuis la période du Covid. Et dans ce film, on rentre dans la vie d'Alain, licencié à 58 ans, à deux doigts de la retraite, qui va créer une entreprise de garde d'enfants avec son ancienne collègue dépressive qui est jouée par Isabelle Nanty et un animateur de jeux télévisés déchu qui s'appelle Gérard Darmon.
Équipe du progrès, dit nouvelle équipe commerciale.
Et pour la diriger, son brillant parcours parle de lui-même. Florence.
T'ont annoncé ça comme ça ?
Ben, rupture conventionnelle, indemnité.
Ça se trouve, c'est un mal pour un bien.
Qui embauche qui à 59 ans ?
Personne.
Mathilde, je vais monter une boîte.
Hein ?
Ma boîte.
Une crèche ? Oui ! Enfin, un business de garde d'enfants.
Il te faudra impérativement un responsable logistique.
Avec qui ?
Avec toi, Véro. J'ai pensé à toi tout de suite et à notre belle complicité.
Tu veux un verre d'eau, connard ?
Apparemment, ça va mieux, ton traitement.
Ce qui fonctionne bien en ce moment, c'est faire du celebrity marketing.
Ah, Jean-Pierre Savary.
Oui, merci.
Voilà, vous seriez en quelque sorte l'image de la société.
Pourquoi ? Il veut faire de la pub pour ta boîte.
Parce qu'il est resté proche des gens. Tu sais, il est simple, hein, il est comme nous. Hein.
Il n'y a pas de bouteille d'eau là, parce qu'on d'habitude, il y a toujours des bouteilles d'eau.
C'est pas mal. Puis c'est vrai que l'idée de l'appli, c'est porteur.
Et on a la chance d'avoir une grosse célébrité marketing.
Qui ? Non, mais la célébrité.
Jérôme, ça veut dire que tu pourrais nous suivre ?
Je croyais que t'en avais terminé avec ces guignols, moi.
C'est pas fait.
T'as de la merde dans les yeux ou quoi ? C'est un cadeau qu'il te fait, en
Véro,
fait.
Véro, c'est peut-être une façon de le dire.
Mal blanc de merde ! Patriarcat de merde !
Tu tombes, tu te relèves. Une fois de plus que tu tombes.
Allez, ouais. Santé !
Je voulais vous dire que, quoi qu'il se passe, je suis fier de nous.
Excuse-moi, Véro, Jérôme est de notre côté.
Ah, pardon.
On fait quoi maintenant ? Eh bien, on file au ciné Mazarin, voir le dernier film de Lucien Jean-Baptiste, c'est dispo dès maintenant. Le dernier film à voir ensemble, c'est celui que Manuel a choisi d'évoquer. Manuel est de retour pour présenter un film tourné dans le coin. Adonzi, c'est le dernier film de François Ozon, Quand vient l'automne. De quoi parle le film, Manuel ?
Eh bien, mon cher Théo, ce film nous raconte l'histoire de Michel. Elle coule une retraite tranquille dans un petit village de Bourgogne, dans la Nièvre. Elle aime cueillir des champignons avec sa meilleure amie Marie-Claude. Et pour les vacances, elle se réjouit d'accueillir son petit-fils Lucas. Mais quand sa fille arrive, un incident va alors se produire et Michel se retrouve alors privé de la présence de l'enfant et elle va tout faire pour le récupérer.
Qu'est-ce qui se passe là ?
La fille nous a appelé en urgence, elle se sentait pas bien. Ça ressemble à quelque chose de toxique.
Les champignons. Rentre avec Lucas.
Mais c'est vacances avec moi.
Après ce qui s'est passé, je peux plus te faire confiance.
C'était un accident.
Tu es dangereux. Je ne vais pas te laisser mon fils.
Ce qui est horrible, c'est que Valérie croit que j'ai vraiment voulu la tuer.
De toute façon, avec ta fille, c'est toujours de ta faute.
Vous n'avez pas à culpabiliser pour cet incident. C'était pas prémédité. N'est-ce pas ?
voilà, c'est le point de départ. On n'en dira pas plus. Quand vient l'automne, eh bien, c'est un film signature de François Ozon. C'est-à-dire qu'il est, on retrouve tout ce qui fait la force et l'originalité de son cinéma. Ce n'est pas parce que le réalisateur met en scène deux mamies qui se promènent en forêt qu'il ne va pas pour autant dresser le portrait de personnages sulfureux dont tout en contraste, en ambiguïté, parfois aussi en cruauté.
Ta mère, elle est triste et c'est dégueulasse ce que tu fais avec son petit-fils.
De quoi tu te mêles? Parce qu'on connaît son putain de passé. Et ta mère aussi.
C'est un film qui commence comme un drame et qui petit à petit va tourner au thriller. C'est pour ça que on retrouve là cette patte de François Ozon. Il nous embarque à ses côtés pour justement un peu ce film enquête sur plusieurs pistes. Il y a des indices, des petits cailloux qui sont semés sur le chemin. C'est une histoire plutôt remarquablement écrite avec un humour délicieusement noir et des comédiens de haute volée, et notamment autour d'Hélène Vincent et Josiane Balasco dans les rôles principaux. Il y a aussi Pierre Lottin, dont tout cela donne les ingrédients d'une belle réussite et un film donc de saison, Quand vient l'automne, à ne pas rater.
Je ne suis pas certaine qu'il s'agisse d'un accident. Tu es au courant de quelque chose? En fait, j'ai plutôt peur qu'il s'agisse d'un meurtre.
Quand vient l'automne, le film tourné dans le coin de François Ozon, dispo au ciné Mazarin. Alors foncez, avant-première jeunesse également, avec Le Robot Sauvage, deux projections dimanche à 10h30 et 16h30. On va suivre l'incroyable épopée d'un robot qui, après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île. Et ce robot qui va finir par adopter le petit dunois, un oison qui se retrouve orphelin. C'est un très joli long métrage d'animation qui est proposé pour le jeune public, mais qui en réalité peut plaire à beaucoup d'adultes restés de grands enfants.
Parfois, pour survivre, il faut outrepasser ce pourquoi on est programmé. Je vous protégerai tous.
Tu as reçu l'ordre de rentrer chez toi.
Je suis déjà chez moi. Je suis un robot sauvage.
Et des enfants qu'on retrouve dans la forêt également à travers une projection événement d'un film sorti en janvier 2024. La forêt, c'est la classe, film documentaire. Au Danemark et en Suisse, les enseignants qui font l'école en dehors disent les nombreux bienfaits pour leurs élèves en termes de comportement, de progrès et de résultats scolaires. En France, cette pratique pédagogique en plein air se répand dans le secteur public, mais l'expérimentation reste quand même isolée et encore rarement régulière. Pourtant, depuis 3 ans, Élise Sergent, enseignante de la classe multiniveau de l'école publique de Mancenant, dans le Doubs, fait classe dans la forêt un jour par semaine. Quel que soit le temps, le film va suivre finalement bien ses cours particuliers en dehors des murs et peut-être donner des idées aux enseignants dans le coin. La forêt, c'est la classe, c'est mardi prochain à 20h. Et puis pour terminer sur cette programmation du ciné Mazarin, le Ciné Comedy Club, on en a déjà parlé, avec la projection de nombreux films cultes comme Le Corneau, La 7ème Compagnie, et bien c'est les Tontons Flingueurs cette semaine qui vous sont proposés avec deux projections. Ce dimanche, c'est à 10h50 et à 17h. 45.
Mais moi, les dingues, je les soigne.
On va lui faire une ordonnance.
Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
Les Tontons Flingueurs reviennent au cinéma pour rappeler de beaux souvenirs cultes à certains et découvrir un film culte aux plus jeunes. C'est tout l'intérêt aussi de ces ciné-comédie-clubs qui vous sont proposés par votre ciné Mazarin. Toute l'actu qu'on vient d'évoquer, vous pouvez la retrouver sur leur site internet ou sur place même directement. Alors étant donné que Letty n'est pas là, c'est vrai que ça rend cette émission beaucoup moins vivante et surtout cette semaine, pas de film qu'elle descende son grenier pour nous rappeler pourquoi il faut revoir certains films. Et justement, on évoquait les films culte avec le ciné-comédie club au Mazarin, eh bien Letty nous représentait il n'y a pas longtemps La Cité de la Peur, rappelez-vous.
Eh bien, le film du grenier, il va être de circonstance. Si je te dis que je suis le pape et que j'attends ma sœur, tu me réponds?
Je te réponds que t'arrives à l'aéroport.
Oui, et l'aéroport, c'est dans La Cité de la Peur.
C'est le... comment? Attends, c'est quoi le prénom déjà? C'est l'arrêt. Attends,
Odile de Ray.
Odile de Ray.
Oui, oh, mais on va y venir, t'inquiète. On va rappeler tout ça, tous ces bons souvenirs.
Oh, oui.
La Cité de la Peur, le film de Les Nuls, réalisé par Alain Berberian, qui fête cette année ses 30 ans, puisqu'il est sorti en 1994, avec dans les rôles principaux Chantal Lobby, Alain Chabat, Dominique Farrugia, donc Les Nuls, mais aussi Gérard Darmon. Et puis, sans oublier la liste impressionnante de rôles secondaires et d'apparitions remarquées. Alors, dans les rôles secondaires, on a bien sûr Jean-Pierre Bacri, Eddie Mitchell, Checky Cario, Daniel Gélin, on a Valérie Lemercier, et dans les apparitions, on a Rosanna Arquette et James Cameron, quand même.
Quelle masterclass, quelle masterclass.
Et si la presse a eu la dent dure à la sortie du film à l'époque, qu'elle a considéré comme une parodie peu digeste, bah ça n'a pas été de même pour le public, hein, qui lui a réservé un accueil triomphal.
Il y a succès eu, populaire. Hein,
bah, il y a eu plus de 2 millions de spectateurs en salle, et le public en a fait instantanément un film culte du cinéma français, entre répliques désormais passées à la postérité, gaga gogo et début d'une nouvelle ère aussi pour la comédie française. Il est temps aujourd'hui de revenir sur l'incroyable histoire de La Cité de la Peur, et je ne bluffe pas. Et juste avant, bande annonce.
Le Festival de Cannes, l'événement médiatique que le monde entier nous envie.
Alors vous allez être content parce que l'année dernière, c'est Nicoletta qui avait votre chambre.
Mais le monde du cinéma est parfois une jungle bien cruelle.
Aïe!
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde!
Jusqu'à où on peut-on aller pour promotionniser un film? Jusqu'à le meurtre? Jusqu'à où? Chantal Lobby, Dominique Farrugia, Alain Chabat, mais aussi de vrais acteurs comme Gérard Darmon, dans La Cité de la Peur, une comédie familiale. Le film de Les Nuls vous enchantera par ses dialogues éblouississants.
C'est joli, ça c'est quoi? C'est du cachemire?
C'est du coton.
Ma première voiture, c'était une Peugeot.
Parce que moi, je suis pas vraiment acteur.
Et ses images me chatoyantes.
Qui monte un bout de pomme de terre sur.
Si vous avez aimé Jurassic Park, La Leçon de Piano et Le Fugitif... Eh ben, nous aussi, on a bien aimé. La Cité de la Peur. Le film de Les Nuls. Sortis-le.
Vous voulez un whisky?
Ou juste un doigt.
Vous voulez pas un whisky d'abord?
Ça, c'est la réplique culte, hein.
Totalement, ouais. Alors, le pitch du film, qu'est-ce qui se passe dans La Cité de la Peur?
Bonne chance. Hein.
Ça commence le premier jour du Festival de Cannes. On a Odile de Ré, qui est attachée de presse du film d'horreur Red is Dead, et elle est dépitée. La première projection de son film, c'est un flop retentissant. Alors, faut dire que Red is Dead, c'est un véritable nanar. Hein. Il s'agit d'un slasher à tout petit budget, avec des acteurs très mauvais, dans lequel un tueur en série communiste massacre ses victimes, donc des capitalistes, armés d'un marteau et d'une fossile. Et pourtant, bah, malgré tout ça, la vie, elle va finalement sourire à Odile de Ré, hein, puisque, comme on le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et justement, le projectionniste du film, il est assassiné pour de vrai par un tueur qui porte le même costume et utilise les mêmes armes que celui du film, donc il tue avec un marteau et une faucille. Et s'il fait divers et sordide, eh bien, il va attirer l'attention des médias sur Red is Dead, et en plein Festival de Cannes, bah, on peut pas rêver mieux comme publicité. Du coup, Odile de Ré, elle est bien résolue à en profiter, et elle fait donc immédiatement venir Simon Jérémy, l'acteur principal de Red is Dead. Alors, Simon Jérémy, c'est un jeune homme un petit peu simplé, qui vomit quand il est content, qui adore les gencives de porc, et pour le protéger, elle va aussi faire venir un certain Serge Karamazov, un garde du corps un petit peu particulier. Et d'ailleurs, le jour même de l'arrivée des deux hommes à Cannes, eh bien, il y a un deuxième projectionniste qui est assassiné ciné durant une nouvelle projection de Red is Dead. Alors là, c'en est trop, hein, le commissaire Patrick Bialès est chargé de l'enquête pour retrouver le coupable et mettre fin au plus vite à cette série de meurtres. Mais dans la fièvre de Cannes, entre un tueur sans pitié en liberté, un politicien véreux et un commissaire obsédé par son image auprès des médias, eh bien, le trio formé par Odile, Simon et Karamazov va devoir jouer des coudes pour arriver intact jusqu'aux marches du Grand Palais. Et moi, je vous dis, ils sont pas au bout de leur péripétie.
Non, c'est vrai, ça c'est que le début, hein, pour le coup.
Oui, oui, ça c'est que le début.
Oui, c'est vrai que je dois te parler, Laetitia. Et la cité de la peur. J'étais concentré dans ce que tu me disais. Et La cité de la peur, c'est un film parodique qui est inspiré du cinéma américain.
Mais oui, oui, mais oui, t'as raison. Et plus précisément d'un trio de réalisateurs, scénaristes, producteurs qui sont connus sous le nom du collectif Zaz. Tu connais le collectif Zaz?
Non.
Tu connais la chanteuse?
Ouais, je connais là, exactement. Ouais, c'est ça.
Alors le collectif Zaz, il est composé des frères David et Jerry Zucker et de Jim Abrams. Et eux, ils sont considérés vraiment comme les rois de la parodie américaine depuis 1980, année de la sortie de leur premier gros succès, Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et c'est également à eux qu'on doit par exemple la série de films Y a-t-il un flic?
Ah oui, ok.
Avec leur acteur fétiche Leslie Nielsen. Et puis on leur doit aussi, ils ont participé aux deux derniers Scary Movie, donc le 3 et le 4. Et l'humour des As en fait se distingue par son côté souvent très très potache, avec des gags qui s'enchaînent à toute berzingue. Et c'est cette recette hein, que vont reprendre les nuls dans La Cité de la Peur, avec aussi une petite touche de Monty Python pour le côté
oui,
absurde.
Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais.
En tout cas, avec La Cité de la Peur, les nuls, ils vont impulser une nouvelle façon de faire de la parodie à la française.
Clairement précurseur de plein de choses qu'on voit maintenant, et notamment un petit peu la bande à Fifi, hein, ça rejoint un petit peu
Cette la bande à Fifi,
carrément.
Exactement, et la bande à Fifi, juste avant eux, il y avait par exemple eu les humoristes Eric Ramsey avec la tour Montparnasse infernale, et puis KDO
avec et Robin des Bois aussi,
avec
un petit peu.
Qui a tué Pamela Rose, vraiment, ils vont impulser nouveau dans la comédie française.
Bah, parce que aussi Dominique Farrugia, c'est le créateur de Comédie Plus.
Oui.
Et c'est ce qui a fait aussi que beaucoup d'artistes sont arrivés sur le devant de la scène. Il y a aussi Fabrice Eboué et tout ça qui ont commencé avec cette chaîne-là, en fait, hein, finalement.
Exactement.
Ouais.
Et ben, c'est un peu ce que là où je voulais en venir. Là, tu me fais une transition toute parfaite, puisqu'il y aura effectivement un avant et un après La Cité de la Peur dans la comédie française. Parce que si jusque-là, les acteurs comiques ils venaient très majoritairement du café-théâtre, comme le Café de la Gare, comme le Splendide, les nuls, eux, c'est le pur produit du petit écran de Canal+, plus précisément. Et c'est d'ailleurs grâce à leur immense succès populaire à l'époque sur la chaîne cryptée qu'ils vont avoir cette opportunité de pouvoir accéder à ce terrain de jeu géant qu'est le cinéma, pour s'en donner à cœur joie et laisser exprimer toute leur créativité. Et ça, comme tu le disais, ça va ouvrir des portes énormes à toute la génération de comiques qui va suivre. Et encore une fois, comme tu l'as dit, il suffit de regarder d'où viennent la plupart de ceux qui nous font rire au cinéma depuis 30 ans pour constater qu'ils sont tous issus de la télé.
Carrément, carrément. Alors ça va ouvrir des portes et puis fermer aussi certaines.
Et oui.
Parce que La Cité de la Peur, ça signe un petit peu la fin des nuls.
Bah oui, malheureusement. Parce qu'au moment de la sortie du film en 94, leur émission hebdomadaire, Les Nuls, l'émission, elle est déjà plus à l'antenne depuis 2 ans. On les retrouve à l'époque seulement un petit peu à la radio. Et le film La Cité de la Peur va presque officialiser leur séparation.
Ouais, c'est ça, ouais.
Même si ensuite, nos trois trublions vont ponctuellement collaborer au cinéma, puisqu'on va les retrouver dans le film Didier en 97, où ils sont tous les trois.
Ah,
aussi
oui,
dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Et puis, en ce qui concerne le duo Chabat-Farrugia, on va le retrouver dans le film Re, en 2004.
Oui, oui aussi. Oui.
Et faut surtout pas oublier aussi que c'est à eux qu'on doit l'adaptation en français des dialogues du film Wayne's World. Et franchement, la Suisse avait été magistrale.
En fait, La Cité de la Peur, c'est un petit peu, tu sais, comme la Tour Montparnasse infernale. C'est pas des films qui ont beaucoup plu à la critique et à la presse, on va dire, cinématographique. Mais par contre, c'est un vrai succès populaire parce qu'il y a des répliques cultes qui marque le film, en fait.
Et en fait, partout, dans chaque image, t'as un gag, t'as une blague.
Ouais.
Par exemple, au début du film, quand t'as Odile Deré qui sort du cinéma, tu regardes les affiches derrière.
Oui.
Allez revoir le film, quoi, parce que franchement, chaque image vaut le détour, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de références aussi, cinématographiques, avec des répliques cultes.
Alors des répliques cultes, il y en a à l'appel. Je pense que tout le monde peut en citer une.
Ouais, de ouf.
Je pense que si on va dans la rue, on dit, dis-moi une réplique de La Cité de la Peur, on en aura une. Ouais. y a tu bluffes Martoni, il y a quand je suis content je vomis, il y a on peut tromper une personne mille fois, on peut tromper mille fois, enfin, bref vous connaissez la suite. Moi ma préférée c'est vous voulez un whisky.
Ah ouais, celle-là c'est la... Elle est top.
Juste un doigt, vous voulez pas un whisky d'abord, celle-là c'est vraiment ma préférée, il y a l'embarras du choix.
Je suis un petit peu le relou à l'apéro, moi qui la sors souvent celle-là.
Ouais, bon, bah, je pense que t'es pas le seul, hein. Y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Et puis, ouais, comme tu disais, c'est un film qui est truffé de références cinématographiques. Il y en a au moins une douzaine, et certaines font partie des scènes cultes, hein, comme la référence à Terminator, à Basic Instinct, à Pretty Woman, à Bodyguard. Et puis, il y a Red is Dead aussi, qui est un film dans le film et qui fait fortement penser au classique du cinéma d'horreur Evil Dead, puisque son titre y fait un petit peu référence, mais il y a aussi son intrigue et son imagerie qu'on retrouve. Voilà, on retrouve beaucoup d'éléments de Evil Dead. Et voilà, bah, rien que pour s'amuser à retrouver tous ces petits clins d'œil et puis revoir toutes ces scènes cultes, eh bien faites-vous plaisir, re-regardez La Cité de la Peur et surtout faites découvrir ce joyau de la comédie française aux plus jeunes.
Ouais, franchement, ouais, y a pas de souci pareil pour le regarder en famille. Hein,
ouais, alors il y a des blagues qui sont un peu dépassées.
Ouais, oui.
Mais je pense que les jeunes...
Mais il n'est pas tombé dans le has-been encore.
Voilà, c'est ça. Franchement. Il y a des trucs qui sont plus d'actualité, mais ça a quand même bien vieilli.
Où est-ce qu'on peut le voir, ce film, Letty ?
Eh ben malheureusement, il est sur aucune plateforme en ce moment.
D'accord. Il n'est pas sur MyCanal ?
On peut seulement le louer.
D'accord.
Mais bon, je pense qu'on a tous quelqu'un qui a un DVD de La Cité de la Peur qui traîne quelque part.
Ouais, normalement.
Et
oui.
Je sais pas, je me dis qu'avec le festival de Cannes, les 30 ans du film, la télé va peut-être le rediffuser, ou les plateformes vont peut-être le remettre en ligne également. Bah donc en fait, à surveiller.
On le souhaite. Foncez voir La Cité de la Peur. Voilà, Bac FM, rendez-vous un petit peu différent aujourd'hui pour Action. Letty revient bientôt pour reprendre cette émission dans l'ordre. Je vous dis à tout à l'heure, moi, à 13h, avec mon invité pour continuer de parler cinéma. Alors, à tout à l'heure, Culture en Vrac arrive à midi avec Gaëtan qui parlera de l'actualité de la maison, la scène conventionnée de Nevers, et Hugo, le chargé de communication du Café Charbon, qui parlera du concert proposé demain en Afterwork. À tout à l'heure.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action.